Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a eu l'opération Serval pour stopper l'avancée djihadiste au Mali en janvier 2013, puis l'opération Barkhane à l'échelle de toute la région sahélienne, puis la création du G5 Sahel pour que les pays de la région prennent leur sécurité en main. Et pourtant, malgré toutes ces mesures militaires, ça fait plus de 5 ans que les groupes armés djihadistes opèrent sur place et quand certains refluent d'un côté, d'autres apparaissent dans des endroits où ils étaient peu présents jusque-là. Le Burkina Faso, par exemple, fait face à un problème grandissant dans le nord semi-désertique mais aussi dans l'est forestier. Le pays paye un lourd tribut à un conflit qui reste très présent. La guerre au Sahel est-elle impossible à gagner? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. André Bourgeot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS et au laboratoire d'anthropologie sociale, spécialiste de la bande sahélo-saharienne. Et Alain Antil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et responsable Centrafrique subsaharienne. En cinq ans, la guerre contre le djihadisme dans la bande sahélo-saharienne, a évolué. Comment, dans quel sens, est-ce qu'il y a des résultats, André Bourgeot?
S'il y a des résultats, ils ne sont pas particulièrement positifs, parce que ça a commencé par le septentrion malien, ensuite ça s'est diffusé quasiment sur l'ensemble du territoire national malien, et puis à l'extérieur aussi du Mali, et plus particulièrement sur le Burkina Faso, vous y avez fait référence tout à l'heure, mais c'est allé aussi jusqu'à atteindre la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire que ça a été
quasiment au bord de la mer.
Donc c'est vous dire que ça a été une diffusion assez rapide par ailleurs.
Les résultats, ils sont difficiles à quantifier, Alain Antil, pour vous aussi?
Il y a une extension, comme André Bourgeot vient de le dire, des zones où il y a des problèmes sécuritaires. Ce qu'on peut dire sur la MINUSMA, sur Barkhane et sur Serval, c'est que ça a certainement, dans un premier temps, réussi à contenir, disons, les groupes les plus puissants militairement, qui étaient les groupes du nord du Mali. Ils n'ont pas disparu. Aujourd'hui, il y a un système, il y a un processus de prolifération des nouveaux groupes armés. Mais tout le monde est conscient, militaire comme homme politique, que la guerre au terrorisme, entre guillemets, se gagnera pas uniquement militairement.
Alors, il y a eu des succès militaires, vous l'avez dit. La première vague, celle qui a été combattue par l'opération Serval, a été stoppée, voire détruite. Et pourtant, il y a toujours ces groupes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, André Bourgeot?
Serval a été un succès militaire, mais sur le plan politique, on ne peut pas dire que c'était un grand succès. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement l'opération militaire française de Serval. Vous savez, Serval, ce petit félin typiquement saharien, aux oreilles pointues, dont la caractéristique est d'uriner 30 fois par heure. Il s'est effectivement stoppé la descente des groupes armés salafistes djihadistes sur Bamako, puisqu'ils ont été stoppés à Kona, à Djabali. Mais sur le plan politique, ça n'a pas été un succès. Autant l'opération Serval a été perçue par les populations maliennes comme étant une armée de libération, je crois que le terme n'est pas trop fort, avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge un petit peu partout.
C'est vrai, François Hollande avait été accueilli en libérateur à Bamako.
Oui, absolument. Oui. Mais 5 ou 6 mois après, l'opinion publique malienne s'est complètement retournée contre la position française, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en définitive, les objectifs de cette intervention n'étaient peut-être pas ceux qui avaient été déclarés. Mmh. Et ensuite,
qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce qu'il y a eu des accusations de dire, c'est une partie de l'opposition malienne qui a consisté à dire peut-être que l'objectif est aussi peut-être de préserver certains intérêts et puis de s'installer. À l'époque, on disait que c'était une opération très rapide. On avait un certain nombre, notamment aussi avec Alain Antil, que non, elle serait appelée à rester, voire à se pérenniser. C'est ce qui s'est passé avec la transformation en Barkhane.
Les groupes se sont multipliés. Ils se sont disséminés. Enfin, comment est-ce qu'ils ont évolué? Comment est-ce qu'ils se sont adaptés à la Antil?
Si on prend les 4 premiers groupes du Nord Mali, c'est-à-dire Mujao, MNLA, Al-Qaïda au Maghreb islamique et le 4e Ansardine, l'opération Serval a contribué finalement à libérer les villes du Nord Mali, entre guillemets, à les affaiblir, notamment en détruisant certaines bases de logistique de ces groupes. et à stopper, comme André Bourgeot le disait, leur progression vers le sud. Mais l'opération Serval n'avait que ces trois objectifs-là, en fait, qui lui étaient assignés. Donc c'est un résultat militaire, un bon résultat militaire, mais c'est pas la mission Serval qui peut résoudre les problèmes du Nord Mali ou du Mali.
Vu de Paris, on a un peu tendance à avoir une vision globale de ce conflit. On parle de Sahélistan. Est-ce qu'il y a une cohérence, voire une coordination des attaques et des groupes, ou bien est-ce qu'on est sur des groupes armés indépendants, jaloux de leur territoire, qui sont dans une logique de concurrence et de surenchère entre eux, Alain Bourgeot?
Je crois que les deux aspects se combinent. Je pense que c'est important de mentionner cette combinaison des deux. Leur autonomie, ce qui fait aussi leur force et leur capacité d'autonomie, d'intervenir quand ils le décident, sans se référer à une autorité supérieure. Donc ça, c'est ce qui fait aussi leur force. Une grande autonomie, ça pose le problème de fond. Est-ce qu'il existerait une internationale djihadiste qui fonctionnerait pas d'une manière très verticale? Tous les points qui ont été marqués, c'est résulte du fait qu'ils ont une autonomie extrêmement importante et qui couvre des territoires différents avec des compositions sociologiques et ethniques très différentes. On le voit actuellement, par exemple, dans les relations entre Al-Qaïda et puis Daesh au Mali, et plus particulièrement à la frontière nigéro-malienne. C'est ça leur force. Grande autonomie, grande flexibilité et grande mobilité.
Ça veut dire qu'ils s'adaptent à la situation sociale ou politique des endroits où ils s'implantent, Alain Antil ?
Oui, bien sûr. Il y avait les trois premiers groupes djihadistes dont on a déjà parlé, puis en sont apparus de nouveaux. Qui généralement, je parle de ceux du comme la Katiba Massina au centre du Mali, hein, Ansarul Islam au nord du Burkina Faso, qui sont beaucoup plus territorialisés, proches des populations en quelque sorte. Et il y a des liens entre ces groupes et les groupes du nord Mali. Donc il y a pas vraiment de rivalité entre eux. Il y a plutôt une coordination qui s'est traduit notamment par la réunification entre guillemets à travers le GSIM. C'est-à-dire il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, c'est-à-dire le Al-Qaïda, Ansar Dine, une partie du Mujao et la Katiba Massina qui se sont réunis.
L'unification des mouvements du Nord Mali.
Voilà.
Est-ce qu'ils se sont adaptés? Parce qu'il y a quand même eu une guerre de guérilla, si je peux dire comme ça, mais il y a quand même eu une attaque contre le QG du G5 Sahel à Sévaré, et ça montre quand même une capacité à planifier des attaques de type un peu différent. Ils sont mieux organisés qu'avant, André Bourgeot,
Même avant, ils étaient très très bien organisés, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation aux nouvelles réalités pour riposter aux nouvelles organisations issues de l'Occident, c'est quelque chose d'assez fantastique. Rappelez-vous une image qui avait été diffusée sur un écran de télévision français, il y en a un qui disait, mais venez, on vous attend, celui qui était Barberousse, là, qui
c'est celui comme ça qu'on l'appelait.
Comment?
Aka, c'est comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Venez, on vous attend. Donc des capacités d'adaptation redoutables. Par ailleurs, il y a eu des stratégies, je pèse le mot, des stratégies de territorialisation. ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique, qui a été créé en 2007, fonction internationale. Le MUJAO, Mouvement pour l'Unité de Jihad en Afrique de l'Ouest, c'est l'espace économique de la CDAO. Et Ansar Eddine, c'est la partie du septentrion malien, à dominante Touareg et arabe, dirigée par un malien.
Ça veut dire
Touareg, pardon.
Ça veut dire qu'ils s'adaptent à l'espace presque politique qu'il aurait proposé à l'Antille.
Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'opération Serval, ces groupes ont été assez rudement secoués par l'intervention française.
Mais oui, je le disais, il y a quand même eu des résultats militaires.
Hein. Dans les deux, trois premières années, il y a eu une baisse de la conflictualité, en tout cas de ces groupes-là. Mais depuis 2-3 ans, je pense qu'on est, ils ont réussi à se coordonner et à mener des opérations en dehors de leur zone d'influence. Vous faisiez allusion à ce qu'ils ont fait à Ouagadougou, ce qu'ils ont fait à Sévaré. Il y a aussi, ils ont monté en capacité d'organiser des coups de force très très impressionnants, comme à Tombouctou où ils ont amené un véhicule, ils l'ont fait exploser dans une enceinte militaire. Donc on est à nouveau dans une phase où ces groupes reprennent de la puissance. Et par ailleurs, quand on regarde la létalité au nord du Mali, depuis 3 ans, elle augmente de mois en mois. Parce qu'il y a de plus en plus de groupes, parce qu'il y a les IED.
Les attaques sont de plus en plus meurtrières, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, puis il y a de plus en plus d'acteurs armés, de toute façon.
Oui, vous vouliez réagir, André Bourgeois.
Oui, sur Sévaret. Sévaret, c'est quand même très significatif sur le plan symbolique. C'était quand même le QG du G5 Sahel.
Qui était la réponse régionale qui s'est proposée.
Ils se permettent d'attaquer le G5 Sahel et de marquer des points.
Avant même qu'il soit opérationnel.
Absolument. D'ailleurs. Et les conséquences de cette attaque-là, ça veut dire que, je crois qu'il était colonel ou général Dako, est remplacé par un Mauritanien. Donc vous voyez, ça a des incidences politiques aussi qui sont loin d'être mineures.
La deuxième incidence, c'est que, et ça va dans le sens de ce que André Bourgeois disait, c'est qu'ils ont décidé de déménager le PC de la force à Bamako. Donc là, c'est une espèce de revers symbolique très important.
C'est un recul géographique. Hein, c'est,
oui. Oui.
Vous parliez tout à l'heure de coordination entre ces groupes, et c'est la question qu'on a en droit de se poser. Comment est-ce qu'ils font? Et on peut se demander s'ils n'ont pas des soutiens extérieurs qui coordonnent tout ça, André Bourgeois. Est-ce qu'il y a un soutien plus ou moins étatique ou de forces extérieures pour tous ces groupes?
En tout cas, s'il y a soutien, il est difficilement identifiable. C'est pas impossible qu'il existe, mais j'insiste sur l'aspect autonomie et plus particulièrement aussi les capacités financières à se reproduire. Je connais pas d'État ou d'instance quelconque qui les alimenterait financièrement. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas pour autant possible. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que leur force, justement, c'est de ne pas compter sur l'extérieur. C'est ça qui fait leur force.
Ça veut dire qu'ils se coordonnent entre eux, Alain Antille?
Oui.
Il y a des réunions, enfin comment ça se passe?
Au sein du GSIM, évidemment, il y a une coordination, il y a un partage des rôles, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi ces autres mouvements dont on parlait tout à l'heure, qui sont des mouvements finalement ruraux. C'est du terrorisme rural entre guillemets. Le mécanisme d'apparition de ces groupes, grosso modo, c'est des groupes qui sont au départ des milices d'autoprotection. Parce que dans le centre du Mali en particulier, il y a d'énormes tensions entre des communautés pour l'accès aux ressources.
Donc chacun organise sa milice et la milice devient sorte de...
Et certaines milices se rapprochent des groupes terroristes pour être protégées, alors que d'autres sont plus ou moins parrainées par l'État malien. Donc ça crée ça alimente la conflictualité.
Ça veut dire qu'il y a un terreau favorable. Comment ils recrutent tous ces groupes, Alain Bourgeois, puisque bon, on l'a
André,
dit, on
André a Bourgeois.
André Bourgeois, Alain Antille et André Bourgeois. Je vais y arriver avant la fin de l'émission, je l'espère. Comment est-ce qu'ils recrutent? Parce qu'on l'a dit, donc les premiers djihadistes un peu vedettes qu'on avait vus sur des vidéos, elles sont morts, mais pourtant ça continue à s'entretenir, ce phénomène.
Bon, c'est difficile de décrire concrètement les conditions de recrutement, donc c'est pour ça que c'est plutôt en termes généraux. Ça s'inscrit dans un contexte socio-économique particulièrement appauvri, où il y a un chômage quand même extrêmement important, la pauvreté est là, et puis ces groupes armés salafistes djihadistes ont des capacités financières et matérielles extrêmement importantes, ce qui me permet de dire, est-ce qu'on n'assiste pas à un islam business? Il y a cet aspect business qui est là. Et cet aspect business, il passe aussi par le narcotrafic, parce que ces groupes sont de loin, de près, intérieurement ou dans le contrôle, pour l'acheminement des drogues illicites, et plus particulièrement la cocaïne et puis le cannabis. Donc c'est une source financière qui est loin d'être négligeable.
Les difficultés du G5 Sahel, qui sont financières et puis opérationnelles, elle montre quoi, selon vous, Alain Antille? Ça veut dire que ils sont pas prêts à répondre, les pays de la région?
Alors, il y a déjà deux choses quand on parle du G5 Sahel. Il y a une organisation qui s'appelle le G5 Sahel, et puis il y a une force du G5 Sahel qui est en train d'être constituée et qui, en fait, à terme, sera présente sur trois espaces différents.
Trois fuseaux, c'est trois comme fuseaux. Ça qu'on dit dans le jargon.
Il y a le fuseau Mali-Mauritanie, il y a le fuseau Niger-Tchad, et celui dont on parle et qui alimente un peu
les inquiétudes,
c'est le fuseau qui est à cheval sur les trois pays du centre, autour de la vaste zone de l'Iptako-Gourma, où c'est là où les premières opérations de la force du G5 Sahel ont eu lieu, qui révèlent, mais c'est pas une surprise, que les trois armées ont encore du travail pour coordonner leurs opérations. Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est déjà difficile pour des pays développés d'arriver à faire des opérations communes, a fortiori pour des pays qui ont des appareils militaires très peu équipés et surtout sous-dimensionnés par rapport aux espaces à sécuriser.
André Bourgeois, le G5 Sahel, Emmanuel Macron avait dit au moment de la création qu'il voulait des résultats dans le premier semestre 2018. Il s'est peut-être avancé un petit peu.
Oui, je crois que le premier semestre 2018 est dépassé, on est dans le deuxième et la situation ne s'est pas particulièrement améliorée. Donc je crois que c'est l'expression d'un vœu pieux et de bonnes intentions. Mais le problème du G5 Sahel, les problèmes du G5 Sahel sont multiples. Il y a le problème du financement, il y a le problème aussi de l'inégalité des capacités guerrières de certaines armées nationales, c'est très inégal. Et puis le troisième type de problème, on peut être surpris de l'absence de l'Algérie. L'Algérie a quand même été aguerrie de la lutte contre le salafisme djihadiste.
ACMI, c'est une organisation algérienne au départ, hein, quasiment.
Oui, enfin, c'est pas une organisation algérienne, résultat du démantèlement du groupe salafiste pour la préparation des combats qui crée Al-Qaïda Maghreb islamique en 2007. Donc l'Algérie est absente. Alors on peut se poser des questions, pourquoi elle est absente? Alors d'aucuns disent qu'elle n'a pas voulu y participer. L'Algérie répond, bien sûr, vous avez créé le G5 Sahel. Une fois que vous l'avez créé, vous nous avez sollicité. Vous connaissez la susceptibilité des Algériens. Ils ont dit, on n'est pas des guignols, on n'est pas des strapontins.
Notamment quand il s'agit de la France.
Absolument. Et puis, bon, ça renvoie aussi au fait qu'il y avait le CEMOC, le Communauté d'État-Major Opérationnel Conjoint, qui a été une coquille vide, qui était à Tamaracet et qui n'a jamais fonctionné. Donc vous voyez, il n'y a pas un climat qui permet de créer une dynamique spatiale sur les pays qui composent le G5 Sahel.
Alain Antil, le fait que la France, sur ce qui s'est passé au Burkina Faso il y a quelques jours, intervienne par des frappes aériennes, qu'on nous annonce que la France va acheter des drones, va se procurer des drones armés pour continuer son engagement dans la région, ça veut dire quoi? C'est quoi le message? Ça veut dire que bon, on essaye de faire le G5 Sahel, mais finalement, la France reste, quoi. C'est ça l'idée?
Je pense qu'au niveau politique français, on aimerait que la force du G5 Sahel émerge plus rapidement et pour pouvoir passer très rapidement en seconde et en troisième ligne. Mais le calendrier qui a été annoncé, vous le disiez tout à l'heure, premier semestre, premier trimestre 2018, il faut jamais promettre autour de date sur ces questions-là parce que évidemment c'est très très lent à se mettre en place. Et de facto aujourd'hui, s'il n'y avait pas Barkhane en fait, contrairement à ce qu'on pense, et surtout utilisé pour coordonner les cinq armées. Et c'est une autre opération française qui s'appelle Sabre. C'est une opération de force spéciale qui, elle, combat et neutralise, entre guillemets, les terroristes. La fonction de Barkhane, c'est surtout de coordonner. Je voulais revenir sur la question algérienne. Effectivement, le G5 Sahel s'est créé sur les ruines du CEMOC. C'est justement parce que ces cinq pays... D'ailleurs, il y en avait que trois qui étaient dans le CEMOC, en plus de l'Algérie. Le Burkina Faso et le Tchad n'en faisaient pas partie. Mais c'est clairement un constat fait par les cinq pays du Sahel que ça ne fonctionnait pas avec l'Algérie. Et ils ont décidé de faire tout seul, évidemment, appuyé par Barkhane, qui a le même espace géographique.
Est-ce qu'on a raison, parce que c'est le slogan, quelque part, du G5 Sahel, de lier sécurité de la région et développement? Est-ce qu'on peut exporter le développement dans des fourgons blindés, pour paraphraser Jacques Chirac, André Bourgeot?
Bon, sécurité et développement, ce sont des intentions qui sont déclarées. Donc il faut d'abord instaurer la sécurité pour ensuite engager le développement. Je pense que ça
participe, et inversement.
Je pense que ça participe du discours politique et de la propagande politique. Mais comment créer les conditions du développement s'il n'y a pas possibilité d'instaurer des petits îlots de paix? Je dis simplement des petits îlots. Peut-être qu'à partir de petits îlots de paix, on va pouvoir faire des grandes îles. J'en sais rien, mais c'est en tout cas pas le cas.
Est-ce que on est condamné? Il nous reste très peu de temps, je vous demande de répondre rapidement. Est-ce que la France et les pays de la région sont condamnés avec cette guerre au Sahel à faire du containment, comme on disait à l'époque de la guerre froide à l'Antille?
Malheureusement, on voit que les zones en conflit se sont étendues et se sont pas rétractées depuis le début de l'opération Barkhane. Même si Barkhane est très concentré sur le Nord Mali, on a quand même à moyen. On voit que c'est une opération à moyen et long terme, même si probablement elle changera de nom et de rayon d'action.
Merci Alain Antil, merci André Bourgeot d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Valentin Vaner. Prochain débat mercredi, demain c'est mardi politique. Bonjour chez vous.